Métaphysique, Père Philippe Saint-Joseph, 16 octobre 1984.
Avant de regarder ce qu'est la qualité et la relation, pour ceux qui n'ont pas suivi le cours de l'année dernière, on va essayer de rappeler, et bien pour tous du reste, c'est bon, comment situer la philosophie première. Ne confondons pas philosophie et philosophie première. Je crois que c'est très important. La philosophie a diverses parties. Et je crois que la philosophie doit toujours commencer par l'aspect pratique. De fait, elle a commencé comme ça. Vous voyez, en philosophie grecque, puisque la philosophie grecque, c'est le berceau de notre philosophie, et je regarderai du côté de l'Inde et je verrai la même chose, je crois que la philosophie commence toujours par un point de vue pratique. C'est pas étonnant. On réfléchit sur nos opérations humaines. Et c'est ce qui fait comprendre le caractère réaliste de la philosophie. Elle commence par un point de vue pratique. Oui, c'est au fond Descartes qui nous a mis dans une position qui n'est pas classique du tout, bien qu'il soit classique, considéré comme classique. Un Grec en face de Descartes aurait dit, mais qu'est-ce que vous faites? Parce que Descartes fait une rupture et il veut commencer par une rupture. Je crois que le philosophe ne commence pas par une rupture. Le philosophe commence par s'étonner de ce qu'il vit. Si vous n'avez aucun étonnement de ce que vous vivez, ben oui, vous continuez de vivre sans réfléchir. Tandis que si vous avez certains étonnements, vous commencez à réfléchir, dites, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la signification de ma vie? Vous voyez, c'est comme ça, du reste, au fond, souvent, même dans nos vies, c'est qu'il y a eu un accident, il y a eu une maladie qui nous a obligés de réfléchir. Bienheureuse maladie qui m'a obligé de réfléchir. Avant, je vivais comme tout le monde. Je me laissais porter par les choses ordinaires. Ce que dit Peggy, vous voyez. Et c'est toujours bon de se rappeler ce que dit Peggy, parce que je crois que c'est très très juste. Tout le monde vit en descendant le fleuve. Vivre en descendant le fleuve, c'est faire comme tout le monde. C'est la spiritualité de la planche. On fait comme tout le monde. Ou on fait pas du tout comme tout le monde. On fait d'une façon très originale ce qu'on fait, en sachant qu'on est unique à le faire. Et on le fait en sachant sa petite spécialisation. On ne réfléchit pas. Et puis Peggy dit, le philosophe, c'est celui qui veut remonter à la source. Il ne descend plus le fleuve, mais il veut remonter à la source. Je crois que c'est très significatif. Peggy dirait ça encore plus aujourd'hui. Remonter à la source. Toujours ce désir de remonter à la source. C'est aller toujours aller plus loin pour réfléchir, pour comprendre ce qu'il y a d'essentiel. La source. C'est évident, c'est essentiel la source. Hein. Quand on parlera des causes, c'est tout simplement pour montrer que la source, elle a diverses modalités. Mais c'est la source. Une cause, c'est une source. On voit les effets, nous. Et derrière les effets, il y a quelque chose. Remonter à la source, c'est le souci du philosophe. Et Peggy ajoute, remonter à la source, c'est accepter quelquefois d'être seul. On ne fait plus comme tout le monde. On accepte d'être seul. Je crois qu'en effet, que c'est peut-être la première chose qu'on doit comprendre au point de vue philosophique, c'est que si on veut vraiment faire de la philosophie, on doit remonter à la source et accepter d'être seul. Et ce n'est pas commun d'accepter d'être seul, parce que naturellement, l'homme est un être qui vit en société, qui aime d'être auprès des autres et de comprendre ce que les autres disent. Vous savez que c'est une épreuve, la solitude. C'est pas commode pas commode du tout de vivre de la solitude. C'est une épreuve. Il faut arriver à être suffisamment fort pour vivre de la solitude. Instinctivement, on aime de dominer les autres, ou de faire que les autres s'occupent de nous, ou des choses comme ça. Et donc, vous voyez, on vit en communauté. Tandis qu'au contraire, accepter de rechercher la source, la cause, alors là, c'est quelque chose qui est difficile, qui est important. Cette recherche de la source. La philosophie sera donc cette recherche à partir de nos opérations, à partir de nos activités, rechercher ce qu'il y a de premier, ce au-delà de quoi il est inutile de rechercher. C'est curieux du reste, hein. Mais tant qu'on n'est pas en présence de quelque chose au-delà de quoi il est inutile de rechercher, notre intelligence reste inquiète. Notre intelligence reste fébrile. Notre intelligence veut découvrir plus loin. Et quand subitement l'intelligence saisit quelque chose qu'elle dit évident, alors elle s'arrête. Quand l'intelligence est en face de quelque chose d'évident, elle s'arrête. Elle est saisie. Elle est prise. On est devant ce qu'on appellera principe. On verra progressivement. Il faut comprendre donc que la philosophie a commencé par la recherche des activités les plus humaines. Et les activités les plus humaines, c'est les activités morales et c'est les activités artistiques. Et l'intelligence a cherché la cause, la source de ces activités morales, de notre responsabilité. D'où vient qu'on est responsable ? D'où vient qu'on oriente sa vie de telle ou telle manière? D'où vient qu'on fait telle ou telle activité, tel choix? La source. On cherche la source, on cherche la cause. Alors, à partir de là, progressivement, va se préciser certaines recherches philosophiques. On aura la philosophie de l'activité artistique, nous y reviendrons. La philosophie éthique et la philosophie politique. Il est très important de comprendre que tout l'édifice philosophique d'une philosophie réaliste, d'une philosophie qui se veut réaliste, c'est-à-dire qui veut connaître ce que c'est que l'homme, c'est ça qu'il faut se dire, c'est la philosophie réaliste, c'est la philosophie qui veut connaître ce que c'est que l'homme. Et à partir de l'homme, l'univers, à partir de l'homme, toutes les autres réalités. Mais c'est une philosophie qu'il faut connaître ce que c'est que l'homme. Une philosophie réaliste s'appuie toujours sur ce triangle de base. Philosophie de l'art, philosophie éthique, philosophie politique. C'est-à-dire nos trois grandes occupations. Vous n'avez qu'à réfléchir sur ce que vous faites maintenant. Et faites la philosophie de ce que vous faites maintenant. Eh bien, vous verrez dans ce que vous faites maintenant qu'il y a les trois dimensions. Vous écoutez un cours. Hein ? Vous écoutez un cours. J'espère que vous avez une intention particulière en écoutant ce cours. Vous avez une intention, non pas parce que vous devez écouter ce cours, mais vous avez une intention en écoutant ce cours quand même de devenir un peu plus intelligent. C'est pas si ça que vous cherchez, quoi. C'est ça que vous cherchez. Votre intelligence émerge un peu, que votre intelligence essaie de retrouver son état naturel. son appétit naturel de vérité. C'est ça que vous cherchez. Donc vous avez une intention. Vous avez choisi ça. Vous écoutez avec le plus d'attention possible. Alors, si vous avez envie de dormir, vous luttez contre le sommeil pour écouter avec le plus d'attention possible. Donc vous avez une attitude morale. Être attentif à un cours, c'est une attitude morale. C'est l'éthique d'un cours, vous comprenez, hein ? L'éthique d'un cours, c'est que les étudiants qui assistent à ce cours et écoutent avec attention. Et le professeur est là de temps en temps pour donner un bon coup de fouet, n'est-ce pas ? Réveiller les gens, leur dire, mais écoutez, écoutez un peu, autrement c'est pas la peine, j'ai envie de moi aussi de me taire. Mais autrement on arrivera, vous savez, cette fameuse conférence que donnait Sartre à Paris, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Hein. Mais Sartre ne s'apercevait pas que l'heure passait. C'était tout à son éloge, tu vois. Il pensait que l'heure ne voyait pas que l'heure passait. Alors les gens partaient, partaient, partaient. Problème d'éthique. Le dernier qui restait s'est posé la question, dois-je prévenir le professeur ou dois-je partir sur la pointe des pieds sans rien dire ? Ça vous montre bien ce que c'est que l'éthique de celui qui est content. Il doit se poser la question. Il y a une relation. Il y a une relation entre les professeurs et les étudiants. Une relation particulière. On ne parle pas à des meubles. On parle à des ceux qui veulent écouter. Et qui veulent revoir. Et on fait une œuvre commune. Ah, vous voyez ? Dimension éthique. Dimension œuvre commune, dimension politique, on fait une œuvre commune. Et c'est pour ça que si on fait une œuvre commune, quand le professeur s'aperçoit que certains bavardent entre eux, il leur dit « taisez-vous, ça me gêne beaucoup et ça nuit aux autres ». Ou bien comme il a le devoir de le faire, parce que c'est une œuvre commune. C'était pas une œuvre commune, non. Faut pas vous inquiéter, de temps en temps je vous dis hein. Il vaut mieux que vous ne parliez pas. C'est bien évident. Mais autrement, ça arrive, ici moins, mais quand on fait des cours dans une université où il y a n'importe qui écoute, ça peut arriver. Alors, on voit des étudiants qui vont au cours pour se rencontrer. On va dire, écoutez, l'agora est un autre endroit. Il vaut mieux se rencontrer autre part. Si vous désirez vous écrire des petits billets doux pendant le cours, faites-le de façon que le professeur ne voit pas. Parce que c'est gênant de voir un petit billet qui passe, un petit billet qui repasse, un petit billet qui... Alors, moi, ça me gêne beaucoup. Alors j'ai envie de sauter dessus, de voir qu'est-ce qui est écrit dessus. Moi. Ça excite l'attention, que voulez-vous. Ça éveille la curiosité, on a envie de savoir qu'est-ce qu'il y a. Vous voyez, assister à un cours, vous avez la dimension éthique. Vous avez la dimension politique. Vous avez la dimension artistique aussi. Parce qu'un cours, au moins pour le professeur, implique un certain art. Un art très particulier, du reste. Un art tout au service de la communication de la vérité. C'est-à-dire de maintenir éveillés les étudiants. C'est quand même un art de maintenir vie. Parce qu'il y a l'art de faire dormir les gens. Alors vous savez très bien, la mère qui est auprès du petit berceau et qui balançait le petit berceau, c'est un art de faire dormir les gens. Il y a des gens qui ne peuvent dormir que si on chante une petite cantilène. Alors ils se mettent à dormir, c'est merveilleusement, on se coupe. Là c'est l'inverse. On doit réveiller les gens. Pour qu'ils maintiennent. Donc, il y a de l'art dans tous les cours. Et puis, il y a cette intention profonde qui est encore une intention éthique, la recherche de la vérité. Donc, vous voyez que ces trois dimensions de l'activité humaine, éthique, politique, artistique, sont présentes à toutes vos activités. Quand vous faites la corvée d'épluchure, eh bien les trois dimensions y sont. Alors là, on voit tout de suite votre art. Parce qu'il y a des gens qui épluchent les légumes de façon lamentable. N'est-ce pas ? Il y a sans aucun art. pauvre pomme de terre, si elle pouvait crier, crierait. Je ne suis pas faite pour être épluchée comme ça. Je suis faite pour éplucher autrement. Vous voyez ? Proprement, quand même. Hein. Il y a un art. N'importe quoi. Il y a un art. Enfin, alors donc, il y a un art. Il y a le point de vue éthique. Je fais ça parce qu'on m'a demandé de le faire. C'est pas la corvée, mais c'est avec grand amour que je fais ça. C'est grand amour que je fais ce petit devoir pour la communauté. Puis c'est politique parce que c'est communautaire. Et donc, c'est toutes vos activités. Réfléchissez, c'est très important, vous voyez. La philosophie vous fait réfléchir sur vos diverses activités humaines. Et vous fait découvrir progressivement que dans toutes vos activités humaines, il y a trois aspects différents. Oui, on commence à être intelligent quand on commence à distinguer ces trois aspects. C'est curieux, hein. Quand on commence à distinguer ces trois aspects dans vos activités humaines, vous commencez à éveiller votre intelligence, parce que c'est votre intelligence qui fait ça. Parce que si vous ne réfléchissez pas du tout, vous faites une activité, va comme je te pousse, une autre activité, va comme je te pousse, et comme la chiquenaude a été au début, à la fin de la journée, on est bon à entrer dans le lit. On est... parce que c'est le dernier point de la chiquenaude, on est tout à fait bon. Tandis que si au contraire, à chacune de vos activités, vous reprenez conscience de ce que c'est, ben oui, vous coopérez et vous êtes toujours éveillé. Et vous le faites le mieux possible. Alors il y a des activités qu'on fait plus ou moins bien, des activités qu'on fait moins bien, d'autres mieux, tant mieux. Mais on est éveillé. Le point de vue moral, éthique, est là présent. Puisque l'éthique, c'est l'intention de notre vie. Et tout doit être dirigé par ça. Donc, ces trois dimensions, hein, et essayez de les comprendre dans toutes vos activités. C'est très, très important. Et quand vous n'arrivez pas à le discerner, reposez-vous la question. Parce que toutes vos activités humaines vont appliquer ces trois dimensions. Au moins, toutes vos activités visibles. Parce que l'amour que vous pouvez porter pour telle ou telle personne ou pour Dieu n'a qu'une seule dimension. Une dimension éthique. Pas politique. Si vous êtes poète, et que vous avez soudainement une inspiration. L'inspiration est-elle morale? Est-elle éthique? Non. Est-elle politique? Non. Vous êtes à la source du point de vue artistique. Donc voyez qu'il y a des activités intérieures qui sont à l'état pur. Mais les activités extérieures ne sont jamais l'état pur. Jamais. Sauf des activités purement instinctives, le fricaré barbam. Hein. C'est le vieil adage des anciens. C'est des gestes instinctifs, n'est-ce pas? On se frotte la barbe. Hein. On se gratte le front, on se met la main devant la bouche, des tas de choses comme ça, vous voyez. C'est des activités qui ne sont pas humaines. Et saint Thomas dit que c'est des activités d'homme, comme on dirait une activité de brute. C'est une activité d'homme. C'est pas humain, c'est pas volontaire, c'est instinctif. Alors, ce n'est ni éthique, ni politique, ni artistique. Et quelqu'un de l'extérieur dit « Oh non, tu n'es pas très beau quand tu te frottes. » Mais c'est pas étonnant, c'est pas humain. Cherchez pas la beauté là où il n'y a pas d'humain. C'est pas humain, ça. Alors c'est normal. C'est la bête qui se rattrape d'une façon ou d'une autre. Hein. Parce qu'il n'est pas normal à un animal d'être assis sur une chaise. C'est pas normal, ça. Alors l'animal qui est en nous, il se fatigue, que voulez-vous, d'être assis sur une chaise. Donc, on l'a dressé à ça. D'être assis sur une chaise. De temps en temps, il réclame un tout petit peu. Alors quand il est parfaitement humain, quand on vit sa vie humaine, c'est pas gênant. C'est humain d'être assis sur une chaise. Oui, c'est assis. C'est assez humain, enfin, c'est sur une chaise. C'est humain d'écouter un cours. Et pour écouter un cours, on est assis sur un fauteuil, bon, moelleux, n'est-ce pas, pour nous permettre de mieux écouter, n'est-ce pas. Alors, ça devient humain. Vous voyez, ce geste qui, pour l'animal, était anormal, est un geste qui est normal au point de vue humain. Les frontières entre l'animal et l'homme, nous portons ça tout le temps. Il y a des gestes purement conventionnels. Je prends ça pour que vous compreniez un tout petit peu ce point de départ de la philosophie. Et comprendre que ce point de départ de la philosophie présuppose déjà une quantité de réflexion. Quelque chose de purement conventionnel. Il y a des gestes dans notre vie qui sont purement conventionnels. Des gestes de politesse. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même de temps en temps, quand même. Il y a des gestes de politesse. C'est conventionnel. Dans tel pays, ça pourra signifier tout à fait autre chose. Dans tel autre pays, autre chose. Il y a des gestes purement conventionnels. Ces gestes conventionnels sont-ils humains ? Ils peuvent l'être. Au début, ils l'ont été. Puis petit à petit, c'est devenu un formalisme. Un formalisme qui est quelque chose qui colle à notre peau, qui colle à nos activités, c'est pas très humain. Et quelquefois, le conventionnel fait qu'il y a des couches successives qui sont tellement fortes que l'humain disparaît. C'est très curieux, ça. C'est très curieux d'étudier le conventionnel. C'est intéressant, du reste, d'étudier le conventionnel au point de vue philosophique. Qu'est-ce qui, dans notre vie, est conventionnel ? Parce que ce qui est purement conventionnel devient formaliste. Dans toute communauté, il y a des choses conventionnelles. Mais elles peuvent très bien ne pas être vécues d'une façon conventionnelle. Elles peuvent être vécues dans l'obéissance. Elles peuvent être vécues dans l'amour. Elles peuvent être vécues de telle ou telle manière. Alors à ce moment-là, c'est plus conventionnel. Et quand on est fatigué, le conventionnel l'emporte. À ce moment-là, ça devient un geste qui n'est plus humain. Qui peut être une défense, ça peut être bon, ça peut être une défense. Mais c'est conventionnel. La clôture. Je prends quelque chose de net ici. La clôture. Ça peut être purement conventionnel. Ça peut être aussi très humain et très religieux. Si on le vit, si on l'exerce, ça devient quelque chose de très, très humain et très religieux. L'habit monastique peut être purement conventionnel. Et ça peut être vécu d'une façon religieuse. Il est conventionnel quand on ne regarde l'habit que pour l'habit. La beauté de l'habit. C'est pas ça qui est premier. Ce qui est premier, c'est l'usage qu'on en fait, religieux, et en vue de manifester, de témoigner quelque chose. Alors on est en face d'un usage humain, religieux. Mais ça peut très bien devenir conventionnel. Vous voyez, c'est très intéressant de voir que l'homme secrète des actes qui ne sont pas humains, qui peuvent être des actes d'homme, qui peuvent être des actes conventionnels au bout d'un certain temps. Alors je dirais ça, c'est l'aspect politique et communautaire qui se crée des choses conventionnelles. Au point de vue religieux, au point de vue liturgique, ça arrive très fort, ça. Il y a des gestes qui peuvent être des rites qu'on fait. On a toujours fait comme ça. Mais pourquoi ? On ne sait pas. On ne sait pas du tout, on a toujours fait comme ça. Quand vous entrez dans une vieille communauté, c'est ce qu'il y a. On voit des gestes... Alors, si on est une novice parfaite, on imite les vieilles mères, n'est-ce pas ? Et alors, en imitant les vieilles mères, on se dit, oui, elles agissent comme ça, on doit agir comme ça. J'y comprends rien. Ça fait rien. Ça peut être bien, puisqu'on imite un modèle. Ça va être bien en imitant modèle. Ouais, c'est pas humain. C'est pas non plus très artistique. Et c'est conventionnel. Ouais. C'est quelque chose d'un. J'allais presque dire, c'est une fin de race. Oui, oui, c'est une retombée. Oui, quand je prends race au niveau de la source, la race humaine, c'est quelque chose de la race humaine, créée à l'image de Dieu, qui a en elle cette noblesse d'être créée à l'image de Dieu. Donc il y a quelque chose de grand, elle est source. Et tout ce qui est source implique justement ce jaillissement de vie. Et quand c'est une source humaine, c'est intelligent. C'est plein d'amour. Il y a quelque chose qui jaillit. Alors, quand il n'y a plus beaucoup de pression, vous savez bien, le jaillissement est un peu pénible. C'est pour ça que je dis que c'est une fin de race, dégringole. Ça te trompe. Alors ça, c'est des choses purement accidentelles. Et le philosophe ne s'en occupe pas. On ne fait pas la philosophie du conventionnel. Si on l'a fait, c'est uniquement pour montrer ce qui est vrai dans l'homme et tout ce qui est à côté. On laisse tomber ça. Et donc, je ne peux pas baser une philosophie sur le conventionnel. Je ne peux pas. Impossible. Baser une philosophie sur le conventionnel, j'aboutirai à quoi ? J'aboutirai à dire, ce qui est premier, c'est le hasard. Quand vous dites que le hasard est source, il est source du conventionnel. Il est source donc de toutes les dégradations, de toutes les choses secondaires. Alors à ce moment-là, vous avez le droit de dire ça. Mais quand vous regardez les choses à l'état de jaillissement premier, quand vous regardez les choses proviennent vraiment de leur source. Oh, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Eh bien, les trois premières choses qui jaillissent de l'homme comme source, c'est la responsabilité morale dans nos actes. Ça provient de l'amour. C'est le désir de réaliser une œuvre, ça provient de l'inspiration. C'est le désir de coopérer et de réaliser avec celui qui est proche de nous une communauté. Alors on coopère de la manière la plus intelligente qui soit, la plus profonde qui soit. Alors on est en présence, vous voyez, de ces trois premiers moments qui forment la base de toute philosophie réaliste. Donc il faut y revenir tout le temps. L'éthique, la philosophie de l'art, la politique. C'est très très important de comprendre ça. Est-ce que la philosophie s'arrête là ? Très grave question, ça. Pour nous, c'est très très important. Les anciens, les philosophes grecs, sont arrivés progressivement avec Aristote à distinguer la philosophie pratique, la philosophie humaine, de la philosophie dite spéculative. Ceci, ça fait partie de l'histoire de la pensée. Il y a un moment où le philosophe a réfléchi suffisamment profondément pour dire, il y a dans l'intelligence humaine une soif de vérité. Il y a quand même un moment donné où l'homme en premier lieu a dit qu'il avait soif de la vérité. Et qu'il ne recherchait que la vérité pour elle-même. Mais il faut déjà une intelligence très parfaite. C'est pour ça qu'Aristote dit cette phrase qu'il ne faut jamais oublier, surtout dans le contexte d'ici. La philosophie spéculative a commencé avec les mathématiques grâce à la caste sacerdotale qui, en Égypte, avait des loisirs. C'est beau, ça. Autrement dit, il faut avoir suffisamment de recul par rapport à toutes les choses qui sont les nécessités pratiques. La plupart des hommes, ut in pluribus, dirait saint Thomas, à la suite d'Aristote, la plupart des hommes ne recherche que l'immédiat dans l'ordre pratique. De temps en temps, il s'élève un peu plus pour avoir une prospective un peu éloignée, mais toujours dans l'ordre pratique. Et il ne quitte pas l'ordre pratique. Tellement le poids du sensible est fort. Tellement le poids de l'imaginaire est fort. À un moment donné, le philosophe a découvert qu'il y avait quelque chose de plus important que ce qui est du domaine de l'activité pratique. Il y avait quelque chose de plus important. C'est la recherche de la vérité pour elle-même. Et que ceci était naturel à l'intelligence. C'est pas conventionnel. C'est pas artificiel. C'est naturel à la connaissance. L'intelligence est faite pour la vérité en premier lieu. Elle est faite pour la recherche de la vérité. Elle est faite pas immédiatement pour l'action. C'est très curieux. L'homme est fait en premier lieu pour l'action, mais pas l'intelligence de l'homme. Distinguons bien les deux. L'homme a besoin, lui, immédiatement de se nourrir. Primum vivere. Hein, vous connaissez bien. Et puis en second lieu, il faut philosopher. Et comme vous avez mangé à midi, vous avez le droit de philosopher maintenant. Vous n'aviez pas mangé à midi, ce serait plus difficile. Primum vivere. Puis ensuite, on philosophe. Ceci, c'est le vieil adage au niveau humain. Je ne dirais pas, voyez ça, au niveau de l'intelligence. Mon intelligence, en premier lieu, cherche la vérité. C'est parce que mon intelligence est liée au sensible dans l'homme qu'elle cherche en premier lieu à se nourrir, ou plus exactement, à nourrir l'homme. Qu'elle cherche la nourriture, qu'elle cherche à travailler d'une manière plus efficace, qu'elle cherche à aller plus vite. C'est important de comprendre que l'intelligence est faite en premier lieu pour la vérité. Il faut le redécouvrir, cela. Tant qu'on ne l'a pas redécouvert, on ne peut pas comprendre cette distinction fondamentale entre l'intelligence pratique et l'intelligence dite spéculative, c'est-à-dire une intelligence faite pour la contemplation. Il faut découvrir par l'expérience que vous pouvez faire en réfléchissant sur votre vie, que votre intelligence n'est pas faite premièrement pour éplucher des légumes, que votre intelligence est faite premièrement pour rechercher la vérité. Premièrement, elle est faite pour ça. Et que vous avez un désir naturel, un appétit naturel de la vérité. Et que si vous ne recherchez pas cette vérité, vous aurez faim et soif. Du côté de l'intelligence. Aristote a donc, face à Platon, fait ce discernement de deux orientations de l'intelligence. L'intelligence pratique est ordonnée à l'action. L'intelligence spéculative est ordonnée à la recherche de la vérité. Il y a donc ces deux orientations. Et cette connaissance spéculative a d'abord commencé par les mathématiques, puis elle est devenue philosophique. L'homme a cherché, au-delà du point de vue immédiatement pratique. Ce qu'était ce composé qui est lui-même dans le monde d'aujourd'hui, dans l'univers. Il a essayé de comprendre comment l'homme était une partie de l'univers. Il a essayé de comprendre comment l'activité artistique présupposait toujours une matière. Et nous voyons alors progressivement naître ce qu'on appelle la philosophie de la nature. Donc notez bien cela, parce que c'est important de comprendre tous les divers niveaux de la pensée philosophique. Les trois niveaux pratiques. Puis ce premier moment d'une philosophie qui veut rechercher la vérité pour elle-même et qui regarde l'homme comme une partie de l'univers. Dans la philosophie dite spéculative, l'intelligence humaine ne regarde plus en premier lieu ce qu'elle est capable de faire et de réaliser, ce qu'elle est capable de modifier. Elle essaie de comprendre la réalité qui est présente à elle, telle qu'elle est. Le soleil, c'est difficile pour moi de le modifier. Qu'est-ce que c'est que le soleil? Qu'est-ce que c'est que l'univers? Qu'est-ce que c'est que mon corps? On comprend très bien comment le philosophe cherche à découvrir la réalité telle qu'elle est, d'abord dans notre univers physique. Et c'est à partir de là que s'est développé ce que nous pourrions appeler la philosophie de la matière, et qu'on a appelé d'une manière classique philosophie de la nature. Oui, aujourd'hui, il y aurait peut-être intérêt à l'appeler philosophie de la matière. Peut-être. En ajoutant tout de suite philosophie de la nature. Parce que c'est par là que je commence à comprendre la nécessité d'une philosophie dite spéculative. Donc une philosophie qui cherche la vérité pour elle-même. Ce n'est pas premièrement ce que je suis capable de transformer dans la matière que je regarde, mais je regarde la matière en elle-même. Et puis, je pousse un peu plus loin, seconde partie, philosophie de l'art. C'est pour ça que j'aime bien mettre les deux oppositions, philosophie de la matière, philosophie de l'âme. C'est-à-dire la philosophie du vivant. C'est-à-dire la philosophie de l'homme vivant. Je suis conduit en regardant l'homme comme partie de l'univers. Je suis conduit à regarder cette autre partie de la philosophie spéculative, le point de vue du vivant. Je dois regarder cela. Pourquoi? Parce que dans l'homme, il n'y a pas que la dépendance à l'égard de l'univers. Dans l'homme, il y a quelque chose de plus profond. L'homme est source de vie, source d'opération. Comment est-il source d'opération? Comment a-t-il une autonomie dans notre univers? Cet univers le dépasse infiniment au point de vue quantitatif. Et comment n'est-il pas écrasé dans cet univers? Il y a en lui quelque chose qui est une source d'autonomie. Et cette source d'autonomie, c'est justement ce qui fait qu'il est un vivant. Et il est un vivant parce qu'il y a en lui un principe de vie qu'on appelle l'âme. Alors je pourrais croire que c'est suffisant, mais bien non. En dernier lieu, il y aura la philosophie première. Donc ce qu'il faut bien saisir, entrer un peu dans ce point de départ de la philosophie. Ce qu'il faut bien saisir, c'est d'abord comment naît la pensée philosophique. Deuxièmement, comment naît à l'intérieur d'une philosophie pratique, une philosophie dite spéculative. Et comment naît à l'intérieur de cette philosophie dite spéculative, la philosophie première. Oui, il y a trois naissances. Il y a trois naissances dans le domaine de la philosophie. Il n'y en a pas qu'une. C'est trinitaire. Hein? Trois naissances. Il y a trois naissances successives. Premièrement, la naissance de la philosophie. Alors, je vous ai dit, la philosophie commence à naître quand je réfléchis sur mes diverses opérations. Quand j'essaie de remonter à la source, en réfléchissant sur les diverses opérations humaines, en comprenant la source qui est la volonté, la source qui est l'exploration. Que la philosophie va commencer à naître. Elle va commencer par un effort de compréhension. L'intelligence qui veut creuser et ressaisir la source. Deuxième naissance, philosophie spéculative. Je ne peux pas m'arrêter à la philosophie pratique. Je dois découvrir une philosophie spéculative. C'est-à-dire la recherche de la vérité. De la vérité considérée pour elle-même, la vérité comme telle, la vérité cherchée pour elle. Ça, c'est la philosophie spéculative. Troisième naissance, la philosophie première. Pourquoi rechercher ce troisième moment? C'est parce que le philosophe veut aller jusqu'au bout de sa connaissance de l'homme. L'homme est bien partie de l'univers, partie d'un tout de l'univers. L'homme connaît bien par son âme spirituelle comme vivant, il connaît bien une autonomie. Je donne au-delà de ce tout. Il a quelque chose d'unique, c'est-à-dire qu'il est la réalité la plus parfaite de ce tout. Parmi toutes les réalités que j'expérimente, l'homme est la réalité la plus parfaite de ce tout. Alors, c'est pas suffisant, il y a l'autonomie de la partie du tout. Il faut essayer de comprendre d'un point de vue beaucoup plus général, le point de vue de ce qui est. Ce qu'est la philosophie première. La philosophie première ne regarde pas premièrement la vie, Elle regarde premièrement ce qui est, ce qui existe. Alors, il faut bien comprendre que là encore, c'est une nécessité naturelle de l'intelligence. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel. Je ne fais pas de la philosophie première parce que je suis obligé d'en faire et que, étant chrétien, je dois être théologien et je dois donc étudier ce que c'est que la philosophie première. Je pourrais remarquer. Pour beaucoup, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. C'est pour ça qu'ils l'ont fait si mal. C'est pas parce qu'ils n'ont pas compris. Ils l'ont fait par devoir. Et vous savez, quand l'intelligence fait quelque chose par devoir, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est jamais très fameux. Il faut le faire par devoir et dépasser le devoir pour découvrir que c'est un intérêt merveilleux. C'est quelque chose d'étonnant. Et découvrir la vérité dans le sens le plus absolu, c'est essayer de comprendre la réalité dans ce qu'elle a de fondamental. Alors, je suis en présence d'une philosophie première qui va se développer pour elle-même, pour aboutir non plus au tout, la philosophie du tout, qui est de nouvelle, hein, la philosophie du tout, c'est la philosophie du tout. Non plus pour voir comment le vivant échappe à ce tout, mais pour comprendre ce qu'il y a de tout à fait premier dans l'ordre. Découvrir l'être premier.